Bonjour à tous et à toutes. Je vais me présenter rapidement. Je suis Nicolas Janda, je suis le responsable du service formation du cabinet TH Conseil. Et je vais intervenir aujourd'hui avec Joanne Titran qui prendra la deuxième partie de l'intervention. Je vais prendre à peu près une vingtaine, 20-25 minutes. Il apportera son témoignage. Joanne est directeur d'égalité des chances du groupe Adecco. Il apportera son témoignage en complément des éléments que moi je vais vous apporter qui sont certains points d'analyse par rapport à la situation autour du recrutement de personnes handicapées et notamment essayer de trouver des pistes, comprendre pourquoi on rencontre des difficultés et voir quelles seraient les possibilités d'amélioration. Et ensuite, bien sûr, on prendra un moment jusqu'à ce qu'on se fasse pousser vers la porte pour avoir un temps d'échange avec vous, questions-réponses. Pour démarrer cette intervention, j'ai eu envie d'apporter une annonce de recrutement qui correspond. Alors, c'est une annonce réelle, hein, qui a été piquée sur Internet il n'y a pas longtemps, qui correspond, mais comme deux gouttes d'eau, à des situations qu'on a rencontrées à répétition avec des clients. Donc, je vous la lis rapidement. Le poste, c'est un gestionnaire de paye en apprentissage ou alternance. Donc, on commence par expliquer le pourquoi l'entreprise, etc., et expliquer le poste. Vous allez voir déjà. Rattaché au responsable de la gestion du personnel et de la paye, vous collaborez quotidiennement avec lui et l'équipe paye sur un périmètre bien défini. Vos missions sont relancer, conseiller et assister les collaborateurs tant sur le territoire national qu'à l'étranger dans la remontée de documents administratifs et financiers. Contrôler la validité de ces documents, assurer le reporting des budgets engagés par les collaborateurs et intégrer ces éléments au système de gestion des payes. Est-ce que vous avez le profil? Vous suivez une formation en RH ou en paye de type Bac plus 2. Au-delà d'aptitudes avérées en rigueur, nous recherchons une personne dotée d'un sens relationnel aisé, capable de travailler en équipe et de réagir rapidement. Vous allez voir, là, ça va se gâter un peu maintenant. La maîtrise de la paye est indispensable. Un anglais courant est indispensable. Ça pique, hein. Quelqu'un en apprentissage à qui on demande déjà de maîtriser le sujet. Si on était mauvaise langue, on dirait qu'ils cherchent de la main-d'œuvre à pas cher. Si c'est pas ça, il y a peut-être d'autres explications. On va creuser un petit peu. Nos amis Taylor et Ford nous ont expliqué depuis très longtemps ce que c'était une société moderne, au sens société standardisée, production moderne. Ils nous avaient dit à l'époque qu'on a le droit d'avoir la voiture qu'on veut, de la couleur qu'on veut et du modèle qu'on veut, tant que ça reste une Ford T noire. Ça laisse quand même pas beaucoup de place à la différence, ça. Force est de constater que les annonces, quand on les regarde, par exemple, elles sont aussi formatées que les procédures peuvent l'être en matière de procédures de recrutement. Il y a une petite illustration, je pense, qui est assez parlante. Certains d'entre vous la connaissent peut-être. Il faut reconnaître que nos procédures de recrutement, elles ressemblent quand même beaucoup à ça. Là encore, c'est presque facile, parce que les différences entre les individus, on les voit. Dans la vraie vie, si on parle de personnes handicapées, juste deux chiffres dont il faut se souvenir, une personne active sur 10 est une personne potentiellement handicapée. Ça ne veut pas dire qu'elle est déclarée ou autre, mais ça veut dire que son état de santé pourrait le justifier. Mais 80% des handicaps sont invisibles. Comment est-ce qu'on peut repérer que cette procédure-là, elle dysfonctionnera pour un individu? Si la personne ne parle pas, ça va être très compliqué. On va aller chercher un petit peu plus loin, comprendre un petit peu ce que nos procédures ont mis en place. Et vous avez là un petit schéma qui permet de comprendre qu'est-ce qui peut amener un recruteur à être soit dans l'ouverture, soit dans l'exclusion par rapport à des candidats. Vous avez deux axes. Le premier axe, celui qui est à l'horizontale, c'est la position de l'employeur sur son marché du travail. Soit il est en position de force, soit en position de faiblesse. La position de force, cas typique, il cherche un profil simple, standard, dans la norme. Et il y a abondance de candidats en recherche d'emploi. Donc c'est lui qui va dicter ses règles au marché. Quand je dis lui, c'est l'employeur. Je suis comme les chats. Moi, j'ai eu plusieurs vies. Et une de ces vies, elle m'a amené à être chasseur de tête. Moi, j'intervenais de l'autre côté. Quand l'employeur est en position de faiblesse, les candidats qu'il cherche, ils n'existent pas. Ou si, ils existent, mais ils vont exister déjà en poste ailleurs. Donc là, c'est les candidats qui peuvent faire la loi. L'axe vertical, c'est la posture j'ai mis de la personne. En fait, c'est plutôt de la chaîne de recrutement. Est-ce que la chaîne de recrutement est en capacité de prendre des risques ou pas, d'être ouverte sur des profils atypiques dans son recrutement? Là encore, on peut faire des petits constats. Je vais peut-être faire des petites tartes à la crème, et c'est vrai que c'est des généralisations, il faut toujours s'en méfier. Mais dans les entreprises, d'une façon générale, la fonction RH n'est pas toujours la plus valorisée. Au sein des RH, le recrutement ne l'est pas toujours. Et au sein du recrutement, les tâches de préqualification, de sourcing ou autres sont le plus souvent confiées, non pas à des seniors, mais plutôt à des personnes qui débutent. Or, c'est quand même le premier point d'entrée dans une entreprise. Ça va conditionner la capacité ou pas à prendre des risques quand on tombe sur un profil atypique. Si on croit ces deux données-là, on va voir quelques petits éléments qui apparaissent. La première des choses, imaginons une entreprise qui est en situation de force sur le marché de l'emploi, mais une chaîne de recrutement qui reste arc-boutée sur une fiche de poste et à qui on demande, par exemple, de trouver quelqu'un pour un poste à Bac plus 2. Quand vous avez peur de vous louper, vous faites de l'élitisme. Et c'est comme ça que les caissières chez Mammouth se retrouvent avec Bac plus 4 ou 5 parce qu'on m'a demandé quelqu'un à Bac plus 2 idéalement, avec 3 ou 4, ceinture, bretelles, parachute, normalement, il n'y a pas trop de risques. Bon, évidemment, on est dans la caricature, hein, mais je pense que ça parle, à vous voir, ça vous parle quand même pas mal. Deuxième cas de figure. On sait que les candidats qu'on cherche sont peu nombreux, mais on est prêt à étudier des candidatures différentes. Là, on développe une sorte de fatalisme. Si on arrive à avoir des candidatures, on les étudiera. Si on n'en a pas, on fera avec. Ou sans. Il reste deux cases. La plus gênante, c'est évidemment celle-là. Et là, pour le coup, plein de choses sont à garder présentes à l'esprit. Quel est le profil type moyen d'une personne handicapée en recherche d'emploi ? 85% des handicaps arrivent en cours de vie, à un âge moyen d'à peu près 45 ans. Ça devient déjà compliqué pour ceux qui cherchent à recruter, par exemple, post-diplôme, jeunes diplômés. Le nombre de diplômés, on en reparlera un petit peu après, il peut être fondamentalement différent si on est handicapé ou pas. À Bac plus 5, entre 4000 et 5000 diplômés par an, maximum, toute filière, tout vivier confondu, donc autant dire que tout le monde les veut, il n'y a pas de marché, il n'y a personne. L'autre élément qui peut devenir très vite compliqué pour les personnes handicapées, c'est le parcours en termes de linéarité. La fameuse question, expliquez-nous la cohérence de votre parcours. La première, j'ai commencé à faire des études en informatique, puis j'ai eu un problème de santé, j'ai dû m'arrêter, donc j'ai repris, c'était plus vraiment de l'informatique, j'ai bifurqué vers de l'électronique, puis de l'électronique suite à d'autres problèmes et d'autres arrêts, j'ai bifurqué vers de l'électricité ou de l'électrotechnique. Et puis aujourd'hui, comme je n'ai rien trouvé pour le moment et qu'il faut quand même travailler et manger, je suis équipier chez McDonald's. Aïe. Ça ne rassure pas forcément non plus un recruteur qui aime bien les parcours linéaires. Il n'aime pas non plus les périodes de trous liées à des absences, à des problèmes de santé ou autres. Donc finalement, on se rend compte que la personne handicapée, elle est polyhandicapée du marché de l'emploi. Et potentiellement, plus elle en sera éloignée souvent et longtemps, et plus elle fera encore peur aux recruteurs. La réalité de cette logique, c'est qu'on en arrive vite à de l'exclusion. Le profil est atypique. Si les recruteurs n'ont pas la marge de manœuvre suffisante pour s'intéresser à des profils aussi, je mets des guillemets, déviants que cela, on ne traite pas les candidatures. Les conséquences en chiffres, elles sont claires. 22% de taux de chômage, le double des personnes non handicapées, sachant que 11, je vous passe la base de calcul, on se doute ce que c'est. 22, c'est la même base, donc c'est certainement beaucoup plus. Par contre, ce qu'on a constaté comme chiffre aussi, c'est que malgré la loi de 2005 qui avait fait redécoller un petit peu le taux d'emploi des personnes handicapées, aujourd'hui, certes, il y a la crise, mais elle a aussi bon dos, le taux de chômage des personnes handicapées a explosé. En 5 ans, plus 80% d'augmentation. Donc on est clairement sur un marché fragile et on est typiquement sur cette case-là. Des personnes qui sont dans une situation de méconnaissance du sujet, de peu de capacité de prise de risque et un marché quasi inexistant si on compare à du candidat dans la norme. Évidemment, la situation la plus favorable, ce serait celle-là, la position de l'ouverture. C'est-à-dire de se donner les moyens ou d'avoir la capacité d'étudier beaucoup de candidatures et d'avoir la capacité de prendre des risques. Vous avez certainement tous un jour été amenés à recruter ou à être proche de personnes qui ont recruté. Ce n'est pas une science exacte. On peut se tromper. Le problème du recrutement de personnes handicapées, c'est que quand c'est le premier, si c'est une réussite, c'est 100% de réussite. Si c'est un échec, c'est 100% d'échec. Et dans ce cas-là, on retente beaucoup plus difficilement l'expérience. Donc on va devoir réfléchir comment essayer de capitaliser plutôt sur des réussites, même si elles ne sont pas forcément les premières flamboyantes, mais au moins que ce soit des réussites. Quand on voit la case exclusion en bas à droite, ça nous amène forcément à nous poser une question. Égalité, équité, égalité de traitement, il y a beaucoup de termes qui viennent là-dedans. Le marché semble être inégalitaire et le traitement des candidatures semble l'être aussi. Et en même temps, on a une loi de 2005 qui a renforcé le droit à la compensation, c'est-à-dire le droit d'apporter à des gens quelque chose qu'on n'apporterait pas aux autres. Avec tout le problème aussi, on y réfléchira un petit peu plus tard, où est-ce qu'on se situe par rapport aux logiques discriminatoires, positives en l'occurrence. Bon, on peut poser deux éléments sur égalité et équité. Je vais faire des définitions simples, pour ne pas dire simplistes. L'égalité, c'est donner la même chose à tout le monde. L'égalité, c'est demander à tout le monde la même chose. L'équité, c'est donner à chacun en fonction de ses besoins, ou c'est demander à chacun en fonction de ses capacités ou de ses compétences. Dans l'absolu, on pourrait poser les choses comme ça. Dans la vraie vie, il y a des choses qui vont se compliquer. Avec nos amis Taylor et Ford, on a inventé la standardisation et les procédures. Les procédures, il va falloir pouvoir suivre, quantifier, mesurer. Là, il n'y a pas mieux qu'un tableur Excel. J'ai un objectif de 100, j'ai 10 personnes. 100 divisé par 10, je vais donner à chacun 10 comme objectif. C'est en plus super facile à vérifier ou à mesurer. Les 10 dossiers ont été traités ou pas, c'est binaire. Sauf que dans l'approche équitable, il y a un autre indicateur qui rentre, qui celui-là est beaucoup moins quantitatif, mais beaucoup plus qualitatif. Qui n'a jamais vécu un jour un entretien d'évaluation annuel où il s'est entendu dire, ou bien où il a dit à son supérieur, « Ah, on m'avait fixé 10, ouais ok, je ne les ai pas faits, j'en ai fait 8. Mais par contre, j'espère bien que tu vas valoriser mes 8 parce qu'ils sont super bien faits, beaucoup mieux que les 10 de mon voisin au bout du couloir qui lui les a faits pour les faire. Donc moi, je mérite mieux que lui. » Ça crée déjà une sacrée tension entre deux indicateurs, deux approches différentes. Ça peut créer des tensions même au niveau du manager lui-même qui, d'un côté, applique des critères qualitatifs, essaye d'y intégrer du quantitatif et n'a pas forcément les outils pour le faire. En même temps, qui dit équité dit, dans mon exemple par exemple, j'en ai fait 8, mais j'espère que tu vas les valoriser. Parce que vu que je me suis investi au maximum de ce que j'ai fait, il serait juste que tu les valorises. Vous avez remarqué que l'être humain, c'est un paradoxe qui se promène sur deux pattes. Parce que d'un côté, il dit qu'il veut être traité comme son voisin, et en même temps, il dit autre chose. Je veux être considéré comme unique. Intrinsèquement, ce qui est juste pour moi n'est pas forcément pour l'autre. Et inversement, ça risque de nous poser un problème avec le droit à la compensation à un moment. C'est pas parce que c'est juste du point de vue de l'individu qui en bénéficie que c'est pas perçu comme du favoritisme par les autres. Surtout quand la compensation est visible, par exemple des aménagements d'horaire, mais le handicap, lui, est invisible. La personne, elle est comme tout le monde, a priori, mais elle a le droit de faire ce que je n'ai pas le droit de faire. Ça va poser aussi des vrais problèmes à un moment. Et tout ça, c'est antinomique avec notre approche égalitariste du recrutement. Ça ne colle plus dans les 20-80 des gros flux. Alors, en fait, on peut essayer de résumer les choses comme ça. L'égalité à gauche, l'équité à droite. Mais ça va nous questionner quand même très fortement, ça. Si on veut être équitable, et qu'effectivement, le petit bonhomme, il en a besoin de plus que le grand, la question, c'est qui va porter l'effort de ça? Est-ce que c'est aux individus de porter l'effort, de mettre les caisses? Est-ce que c'est à l'individu de dire qu'il a besoin? En même temps, il y a réalité, on ne peut pas vouloir le beurre, l'argent du beurre et le sourire de la crémière. Si je ne demande pas ce qui m'est dû et ce dont j'ai besoin, ça ne se voit ou ça ne se sait pas forcément. Et après, il y a façon de demander et il y a revendiquer. Encore deux choses différentes. Donc on a introduit en plus le comportement individuel. Pardon. L'autre problématique, si ce n'est pas l'individu qui porte la compensation, c'est peut-être l'équipe. Ça va nous questionner aussi très fortement autour des logiques de collaboration au sein de l'équipe, voire plus même autour de la problématique de la solidarité. Je ne sais pas si vous avez remarqué, quand une équipe dysfonctionne et que les gens s'écartent les uns des autres, spontanément, on essaye de fédérer. Maintenant, par contre, quand on est en sous-effectif ou qu'on a trop de travail ou autre, on impose la solidarité plus aux uns et aux autres. Et si quelqu'un n'arrive pas à faire quelque chose, on va demander encore plus aux collègues pour boucher le manque. Parfois, ils le font spontanément. Quand on a un passé et pas un passif avec la personne, spontanément, on a plutôt tendance à collaborer. Vous avez vu beaucoup de managers, vous, qui se rapprochent d'équipes qui collaborent spontanément en étant vigilants et en leur disant faites gaffe de peut-être pas trop vous surinvestir parce que ça risque de mal finir à un moment ou à un autre. Pourtant, il y a peut-être bien une grenade dégoupillée quelque part. On se surinvestit pour aider quelqu'un combien de temps? 1 heure par jour? 10 minutes par jour? 3 heures par jour? Pendant une semaine ou pendant un an? Ça pose de vraies questions aussi. L'autre question, c'est est-ce que l'employeur doit porter? Ben là aussi, la question, elle va être traitée différemment suivant que l'employeur, il a droit juste aux aides de la GFIP, qu'il ait une petite ou une grande structure, qu'il a une convention avec la GFIP ou qu'il a un accord. Ce dont je suis en train de vous parler, c'est le principe de raisonnabilité. On n'a pas le temps de rentrer dans le détail de ce principe de raisonnabilité, mais en gros, ces petites caisses-là, et si je rajoute dessus le principe de raisonnabilité, ça renvoie à quoi? Ça renvoie au fait que la compensation, ce n'est surtout pas l'apport d'un avantage à une personne. C'est le rattrapage d'un désavantage subi par un individu, j'ai bien dit subi, pas choisi, subi par un individu en l'absence de choix alternatifs simples. Le petit bonhomme, il subit sa petite taille. Il n'y est pour rien. C'est un problème de santé, c'est un problème de handicap, c'est ce qu'on veut, il ne peut rien. Donc il n'a pas de choix alternatifs simples que d'avoir des outils de compensation. Faut-il que les autres comprennent le besoin? Là, c'est facile, parce qu'on voit la différence, une fois de plus. Cela dit, voir ne signifie pas forcément comprendre. Tout ça par rapport à nos processus de recrutement, ça va avoir des incidences. Parce que quand on recrute et qu'on passe une annonce comme celle qu'on a vue là, alors les chiffres qui sont là sont des chiffres complètement fantaisistes, peu importe. Un recrutement, c'est un entonnoir. Dans cet entonnoir, vous allez faire passer les candidatures des gens. Il y aura un gros volume de candidatures de travailleurs ordinaires, non handicapés, qui vont postuler. En bout de liste, 3 personnes, et on va faire son choix. Ce sera peut-être déclaré une personne handicapée. Mais si j'applique les mêmes filtrages dans les mêmes proportions que sur les autres, il ne reste plus personne en bout de course. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de personne handicapée dans le premier entonnoir. Ça veut juste dire que comme je ne les ai pas identifiés, je vais les traiter exactement comme les autres. Mais eux, je vous rappelle qu'ils ont le parcours déconnant. C'est ce que je dis, plus âgés que la moyenne, potentiellement moins diplômés, parcours en dents de scie, problème de cohérence, absentéisme potentiel. Alors, le premier réflexe, généralement, c'est ça. C'est d'élargir le sourcing. Et on va aller sur des job boards, on va aller sur des salons. Et on va aller récupérer plus de candidatures. Mais au final, si une fois de plus on garde les mêmes filtres, on a juste plus de candidatures à classer verticalement. Ça signifie quoi? Ça signifie que développer le sourcing, c'est bien une condition nécessaire, mais qu'elle ne sera pas suffisante. Si on veut aller plus loin, il faudrait élargir l'entonnoir en bas. Élargir l'entonnoir en bas, là, ça nécessite beaucoup plus de travail. Parce que, pour le coup, on va s'intéresser au parcours de vie d'une personne sur un poste. Et on se rend compte qu'élargir l'entonnoir, ça signifie que tous les échelons qui vont participer au recrutement, à l'intégration, à l'accompagnement, doivent être sensibilisés sur ce qu'on appelle chez nous les risques subjectifs, c'est-à-dire dédramatiser le sujet du handicap et l'objectiver, ne plus être dans le fantasme. Mais ça ne suffit pas. Parce que même si on est au-delà des fantasmes, on résout le problème de méconnaissance, on ne résout pas un problème concret et factuel, comment je réponds de façon managériale aux besoins de la personne handicapée, c'est-à-dire aux conséquences de son handicap sur son activité professionnelle, où là encore, à chaque étape, il faut vérifier le degré de raisonnabilité. Tout n'est peut-être pas envisageable. Si la personne, je vous donne un exemple cash, elle ne veut pas prendre sa part, elle ne veut pas évoquer ses difficultés, ou à un moment, elle se réfugie derrière son handicap, c'est déjà mort, quoi. Pour autant, est-ce que c'est elle seule de porter? Sûrement pas. Est-ce que c'est l'équipe de porter? Dans quelles limites? Et comment l'employeur se positionne? C'est mes 3 questions d'avant. Donc là, je vous ai fait un petit résumé. Mais on se rend compte que sur chacune des étapes, tous les acteurs doivent être sensibilisés à aborder la thématique du handicap, depuis la précale jusqu'à l'intégration, sous l'angle des conséquences et développer la communication entre les acteurs. Ça signifie qu'il faut déjà créer, au sein de la chaîne de recrutement, un référentiel et un vocabulaire commun autour du handicap, mais que ça, ce n'est pas suffisant. Parce que si vous faites ça, et que vous envoyez les personnes sur un salon ou sur un job board récupérer des candidatures, certes, ils les filtreront différemment et ils élargiront le champ des possibles, au moment du sourcing. Mais ça s'arrêtera peut-être là. Parce que derrière, qu'est-ce qui va se passer? C'est que si on n'a pas réfléchi à quelles sont les compensations qu'on peut mettre en place, et que les différents acteurs ne savent pas avec qui ils vont devoir collaborer en interne ou en externe, avec le médecin, qu'est-ce qu'on peut en attendre, avec une assistante sociale, avec un manager, avec un RH, avec un service formation. Et je pourrais mettre beaucoup d'autres acteurs. Je pourrais mettre des acteurs externes, la GFIP, le SAMET, des ergonomes, des cabinets conseils ou autres. Mais si à un moment, on ne sait pas ce qu'on peut attendre des différents acteurs et où on a sa place quand on est manager ou quand on est recruteur dans cette chaîne et quelles sont mes prérogatives et qu'est-ce que je dois demander aux autres pour collaborer avec moi, ça va poser un vrai problème. Et là, le référentiel ne suffit pas. Il faut maîtriser les quatre formes de compensation, comprendre ce que c'est la compensation technique, l'ergonomie. Il ne s'agit pas d'en être un spécialiste, il s'agit de savoir où chercher l'information avant de dire c'est possible ou pas possible. La compensation organisationnelle, la formation, évidemment tout ce que je suis en train de dire avec ces trois compensations, c'est qu'il va falloir beaucoup plus de proximité sur ces cas-là que sur les autres, parce qu'on est en train de faire différemment pour une singularité parmi d'autres. Donc le recrutement d'une personne handicapée peut prendre aussi plus de temps que celui d'une personne non handicapée, parce que dans le processus, il va falloir intercaler les recherches potentielles de compensation pour savoir si c'est raisonnable ou pas, faisable ou pas faisable. On voit que ça doit durer tout au long de la vie professionnelle de l'individu, et qu'en plus, si on parle de recrutement, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise façon de recruter en termes de contrat, il faut essayer à peu près toutes les possibilités qui s'offrent à nous. Aujourd'hui, il y a un certain nombre de candidatures. Rapprocher les gens du marché de l'emploi, quels que soient les moyens utilisés. Parce que si on n'utilise pas suffisamment de moyens, on va vite se retrouver sur des gens où, par exemple, on va vouloir du CDI temps plein. Oui, sauf que pour la compensation organisationnelle, quelqu'un qui a besoin de temps pour des soins ou des choses comme ça, le CDI, c'est très bien. Le temps plein, ce n'est pas forcément la réponse adaptée. Le temps partiel, au contraire, serait peut-être plus compatible. Maintenant, ce temps partiel, est-ce qu'il est compatible avec l'organisation de votre entreprise? Ça, c'est autre chose. Ou du poste. Ce qui veut dire que finalement, recruter des personnes handicapées, ça nous amène à revisiter l'ensemble de nos pratiques RH et l'ensemble de notre organisation du travail. Enlevez le mot handicap, et vous avez les mêmes problématiques avec quelqu'un qui arrive junior dans une équipe confirmée, de quelqu'un qui est senior dans une équipe junior, d'un parent isolé, d'une situation de maternité. À chaque fois, l'individu est porteur d'une différence par rapport à une norme qui peut poser un problème. Est-ce qu'on se donne les moyens de repérer cette différence? Est-ce qu'on veut essayer d'y répondre et de réfléchir à plusieurs acteurs sur la raisonnabilité de la démarche? Je vais pouvoir vous donner des exemples un petit peu et parler un petit peu de tout ça. On en revient, et ce sera ma conclusion pour que je puisse lui laisser quand même suffisamment de temps. La problématique du recrutement de personnes handicapées, c'est souvent le renforcement des stéréotypes. C'est-à-dire que les stéréotypes autour du handicap sont souvent négatifs. On confond la méconnaissance, les a priori ou les représentations avec les conséquences réelles, alors que les deux réponses sont complètement différentes. Aux a priori, vous les traitez avec de la connaissance. Les conséquences réelles, vous les traitez avec des actes managériaux, d'aménagement des conditions de travail. Donc ce sont deux choses différentes. Maintenant, tant qu'on est dans cet amalgame négatif, ça signifie qu'on a peu de recrutement. S'il y a peu de recrutement, il y a peu de réussite à communiquer. Ce qui renforce les stéréotypes. Le plus important, c'est d'anticiper. Ça veut dire que le recrutement du jour au lendemain d'une personne handicapée sur un poste, ce n'est pas infaisable, mais ça tient plus du coup de chance. Il vaut mieux essayer de trouver, pour démarrer, des postes qui sont plutôt des postes récurrents ou des postes anticipables pour avoir le temps, et dans le processus de recrutement, et dans l'intégration, de mettre en place cet accompagnement. Pour autant, quoi qu'il arrive, un recrutement de personnes handicapées se fait avant tout sur la base de compétences. Ça signifie que très souvent, la première chose à faire, c'est de reprendre l'annonce que je vous ai lue. Et cette annonce n'est que le reflet du poste. Le reflet du poste, vous aviez compris ce qui était attendu de cette personne? Dans la réalité des faits, c'est la gestion des notes de frais. Donc la connaissance de la paye, hormis le fait qu'elle vient la prendre. Bon. Très intéressant, par contre, de parler de ses aptitudes avérées de rigueur, de la capacité à collaborer. Ça, c'est super important. L'anglais, pourquoi ils ont demandé l'anglais? Ah si, il y a des collaborateurs expatriés. Et c'est une évidence, les expats, on leur parle en anglais. Ouais. Mais là, on est dans la standardisation. Quand j'ai demandé pourquoi c'est marqué, parce qu'il est toujours marqué qu'il faut la maîtrise du poste, il est toujours marqué qu'il faut pratiquer l'anglais. Je vous prends que ces deux critères-là, et vous êtes déjà dans la première case en bas à droite, l'exclusion. L'entreprise qui correspondait à ça, c'était une entreprise avec laquelle j'ai longtemps travaillé, qui a rejeté tous nos candidats, jusqu'à ce qu'on forme. Et quand on a formé et qu'on a décortiqué la fiche de poste, le vrai besoin, ils nous ont dit, mais en fait, les savoir-être, il n'en faut quasiment aucun, c'est que des savoir-faire, les savoir-faire, et viens les apprendre. Et j'ai dit, mais alors comment vous allez faire pour les détecter? Ils m'ont dit, sur un CV, c'est pas possible. Conclusion, au lieu de rejeter les candidats, il aurait fallu les recevoir, voire les mettre en situation sur de tests d'aptitude ou autre, pour détecter les capacités de rigueur, la logique ou des choses comme ça. ça prend plus de temps. C'était incompatible avec le recrutement d'urgence. Voilà ce que je pouvais vous donner en quelques minutes, un petit peu comme point de vue. Évidemment, derrière, il y a encore beaucoup de questions. Mais je vais laisser la parole à Johan, qui va vous donner des exemples, je pense, un petit peu de choses, et élargir le sujet au-delà du handicap.
Oui, voilà. Donc, merci Nicolas. Moi, j'ai surtout essayé d'être bref pour qu'on puisse avoir l'opportunité d'échanger. Nicolas, voilà, a transmis beaucoup de choses. Voilà. Et le complément que moi je peux apporter, donc voilà, nous on est un acteur majeur sur le marché de l'emploi, donc on observe les pratiques. Est-ce que Nicolas a pu décrire ? Et moi, ce qui me semblait là important dans le voilà, une petite synthèse, vous apporter une synthèse autour de cinq termes. Le premier, moi, que je retiens, en tout cas que j'avais envie de partager avec vous, c'est la notion de performance. Performance, pourquoi ? Parce que aujourd'hui, vous êtes, voilà, on est nombreux. C'est vraiment une très très bonne nouvelle. On passe un message d'espoir. En tout cas, j'espère que c'est Nicolas. Ce message-là que vous avez reçu, un message d'espoir autour de la notion de recrutement. Et moi, je vous parle de performance. Pourquoi ? Parce que le recrutement n'a jamais été aussi un acte aussi important pour la performance de vos organisations demain. Peut-être, ça compte. Mais aujourd'hui, ce n'est pas que ça compte pour la performance. C'est déterminant pour la performance de nos organisations. Demain, le recrutement. Avoir les bonnes équipes, les bonnes personnes sur les bons, au bon endroit dans nos entreprises, c'est juste ce qui va faire sa réussite. Les échecs, on peut de moins en moins les supporter. Et le recrutement, c'est le premier acte qui contribue, qui va nourrir, qui va faire la performance de nos organisations demain. Donc le premier terme que je voulais partager avec vous, c'est cette notion de performance. Le recrutement est un acte qui contribue, qui est déterminant pour la performance demain de nos entreprises. Donc très bonne nouvelle d'investir dans le recrutement. Et c'est mon deuxième terme, le recrutement. Nicolas l'a dit, penser le recrutement, c'est pas simplement penser le CDI. C'est pas simplement penser en stock, j'ai combien de CDI à pourvoir. Le recrutement, c'est, voilà, on l'a vu, hein, il y avait la diapositive précédente, il y a plein de formes différentes, il y a plein d'opportunités différentes pour recruter, pour donner sa chance à tous les talents d'intégrer vos entreprises. Et donc le recrutement, ce n'est pas simplement un stock, c'est un flux. Il vous faut penser aujourd'hui le recrutement comme un stock et un flux. Si vous pensez juste votre stock de CDI, vous passez à côté d'une très très grande partie du vivier de différents candidats. Et donc, voilà, la performance de votre entreprise, déjà elle est obérée parce que vous passez à côté de talents qui sont là autour de vos entreprises et que vos process, la façon dont vous pensez votre recrutement ne permet pas de voir. Donc, penser le recrutement, c'est penser sous toutes ses formes, c'est penser un flux plutôt qu'un stock, mais c'est penser le recrutement dans son intégralité. Le recrutement, c'est pas simplement je source, je détecte la personne, c'est bon, elle est présélectionnée, elle rentre dans mon entreprise, elle a signé ses contrats et c'est terminé. La première cause d'échec, d'intégration d'un collaborateur en situation de handicap dans une entreprise, dans une organisation, quelle est-elle ? La mauvaise intégration dans son environnement de travail, par son équipe. Donc vous avez fait tout le job, avec des difficultés incroyables si vous n'adaptez pas votre process de recrutement, parce que la logique d'entonnoir, elle est implacable. Mais vous avez quand même eu la chance et vous avez fait un job incroyable. Vous avez un candidat en situation de handicap, vous le recrutez, il vient chez vous. Et au bout de 3 mois, il part. Bah oui, parce que vous n'avez pas pensé à l'équipe. Vous n'avez pas pensé à son intégration dans l'équipe et comment la préparer, qu'est-ce qui doit être fait, pas fait. Et donc la première cause d'échec, c'est celle-là. Donc il faut penser le recrutement du début à la fin. Et pensez d'autant plus du début à la fin, parce que peut-être un collaborateur ou des collaborateurs demain vont vous quitter votre organisation. Mais qui dit que demain, ils ne reviendront pas ? S'ils partent fâchés, c'est plus de probabilité, de risque, je devrais dire, qu'ils ne reviennent pas demain chez vous. S'ils partent pour X ou Y raison de votre entreprise, mais plutôt satisfaits, peut-être que la vie nous réserve des surprises et peut-être qu'ils auront envie demain de revenir au sein de votre organisation, en tout cas beaucoup plus facilement que s'ils sont partis fâchés ou sur un échec lié à leur intégration. Donc il faut penser le recrutement. Le troisième terme que j'avais envie de retenir, c'est le titre, hein, c'est comment adapter ces processus de recrutement, donc c'est la notion de processus. La notion de processus, parce que le processus, c'est extrêmement conservateur. On a interrogé une population de recruteurs, donc un vaste échantillon, voilà, je ne détaille pas la méthode, et on les a interrogés sur, voilà, vous avez mis en place telle méthode, là, et ça n'a pas marché. Vous n'avez pas réussi à pourvoir le recrutement, les postes que vous aviez à pourvoir. Ok, on a analysé pourquoi, etc. Puis on avait gardé une petite question à la fin dans cette étude, qui auprès de ces recruteurs, donc des professionnels de recrutement qui leur demandaient. Donc ça a échoué. Et si vous aviez à recommencer votre processus de recrutement, que feriez-vous ? À 91%, ils répondent la même chose. Ils ont échoué. On les interroge sur ce qu'ils feraient pour renouveler, s'ils avaient à renouveler leur processus, ou en tout cas leur opération de recrutement, ils réaliseraient à 91% la même chose. Donc les processus, ça entraîne un réflexe conservateur. Et ça, c'est voilà, à l'opposé de cette capacité à adapter et donc à s'ouvrir à la différence. Donc la diversification des méthodes, des processus de recrutement, elle est extrêmement importante. Les mêmes personnes qui appliquent les mêmes méthodes sourcent les mêmes candidats et produisent les mêmes résultats. Et on a vu quels résultats c'était. Ce n'est pas des résultats qui sont extrêmement performants en termes d'intégration de la différence. Donc ça, c'était le troisième terme. Le quatrième terme de notre équation, comment adapter son processus de recrutement aux personnes en situation de handicap, il y a la notion de candidat. On en a parlé, mais là, alors on a appelé ça la standardisation, la normalisation. On cherche des CV avec un niveau de diplôme, des pratiques de langue étrangère. Voilà, tout ça, bien sûr, ce sont des obstacles si on se limite à cette standardisation. Et ce qui est extrêmement important, Nicolas l'a dit, mais moi je voudrais insister, c'est cette notion de rencontre. Le contact, la proximité. On réalise, nous, des opérations, on met en place des job dating, ça fait quelques temps qu'on met ça en place, déjà plusieurs années, et ce job dating, vous connaissez la version sentimentale du speed meeting, deux individus qui se rencontrent pour créer des affinités sentimentales, c'est reproduire la même méthode en termes de recrutement. Qu'est-ce que ça produit ? Qu'est-ce que ça produit quand on fait ce genre d'opération ? Ce genre d'opération, quand on a des briefs, à 100%, on a déjà rencontré des centaines de recruteurs qui sont passés dans cette expérience-là, parce que c'est une expérience qu'ils ne connaissent pas, puisqu'ils reproduisent toujours les mêmes méthodes, et que ces méthodes, ce n'est pas des méthodes de recrutement comme le job dating. Qu'est-ce qu'ils nous disent à chaque fois à la fin de l'opération ? Ils n'auraient rencontré aucune des personnes qu'ils ont rencontrés à l'occasion de cette expérience. Pourquoi ils ne les auraient pas rencontrés ? Parce que la façon dont ils recrutent, c'est je capte un CV. Et ce CV, il est différent pour X ou Y raison. Et la différence, elle ne passe pas beaucoup dans des process normalisés, standardisés. Donc il est écarté. Le poids, l'importance de la rencontre, il est déterminant. Ça peut être un job dating, ça peut être. Voilà, il y a plein de façons différentes de l'organiser, cette rencontre. Mais quand vous êtes dans ce format-là, vous créez une capacité à écouter, à adapter et donc à donner sa chance à des talents qui sont différents. Si on fait comme ça juste un petit test entre nous, qui a déjà testé par exemple un job dating ? Il faut bien lever la main qu'on voit. Ok, d'accord. Qui a déjà testé, je sais pas, méthode de recrutement par simulation, la MRS ? Ouais, vous avez deux. Je ne vais pas continuer, mais voilà, simplement, et encore, on est là, les personnes qui ont levé la main, je pense qu'on n'est pas représentatif, hein. On est beaucoup plus nombreux. Alors, en tout cas, là, vous êtes dans la salle, la proportion est beaucoup plus importante que sur la population des recruteurs en général qui n'ont pas testé ces méthodes-là. Et quand vous interrogez les candidats sur ces méthodes, alors on peut les appeler alternatives, moi je dirais qu'elles sont simplement différentes, complémentaires. Quand vous les interrogez, est-ce que vous êtes prêt à jouer le jeu du job dating ? Est-ce que vous êtes prêt à jouer le jeu du CV anonyme ? Est-ce que vous êtes prêt à jouer la MRS, l'Assessment Center ? Des méthodes donc pas simplement basées sur le CV et l'entretien face à face. Eh bien, ils sont beaucoup, 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 beaucoup plus favorables à tester ce type de méthode. Donc ils ont, eux, envie de prendre des risques que les recruteurs ne sont, eux, pas prêts ou à qui on ne donne pas la capacité, le pouvoir de prendre ces risques. Donc ça, c'était la notion de candidat qui me semble extrêmement importante à avoir en tête. Et puis, dernier point, les recruteurs. Les recruteurs, peut-être les process les amènent à... Voilà, les process sont conservateurs, mais les recruteurs, recruter, c'est un acte formidable. C'est un acte formidable, c'est un pouvoir formidable. Et il faut s'interroger, comme Nicolas l'a dit, sur la place qu'on accorde aujourd'hui au recrutement et aux recruteurs dans nos entreprises. Quelle valorisation de ce métier-là ? C'est la première porte d'entrée qui va contribuer à la performance de l'entreprise. C'est le premier sourire, c'est le premier regard, c'est le premier bonjour. bien souvent avec une entreprise. Alors vous allez me dire, ok, il y a les sites internet, les job boards et compagnie, mais ce n'est pas très humain comme relation. C'est généralement le premier contact humain avec nos organisations. Et quelle valorisation on leur accorde ? Quelle place on leur accorde dans nos processus de recrutement ? Si c'est une fonction qu'on juniorise, qu'on met de côté, qui n'est pas valorisée, ça, voilà, c'est peut-être un peu significatif de l'importance qu'on leur accorde, mais peut-être ça impacte la performance à venir de notre entreprise. Donc bien sûr, il faut cette valorisation extrêmement importante, et les recruteurs, quand vous êtes recruteur, vous avez un pouvoir formidable. D'entre nous, les uns les autres, je pense, avons tous eu l'occasion de recruter. Et quand on est recruteur, on a un pouvoir. Ce pouvoir, bien sûr, il y a des process, bien sûr, il y a un candidat en face de nous. Mais on a quand même un pouvoir de capacité d'adaptation de nos processus, d'écoute de la personne, de donner sa chance à quelqu'un qui peut-être est différent ou qui n'est pas avec son bac plus 2, sa maîtrise de la gestion de la paye et puis de l'anglais, mais peut-être qu'on a détecté autre chose. C'est peut-être aléatoire. En tout cas, il y a une part d'aléa, et cet aléa, qui d'autre que le recruteur est en capacité de le détecter. Donc c'est un pouvoir incroyable.
Ce que vous dites est extrêmement intéressant sous l'angle aussi du soutien absolu et absolument nécessaire de la direction dans une telle démarche. Qui est-ce qui peut dénormaliser, qui est-ce qui peut déstructurer certaines procédures s'il n'y a pas une volonté de la direction et de l'implication de la direction ? Alors, nul ne changera le monde, chacun peut impacter son environnement proche, vous connaissez la maxime. Pour autant, à un moment, plus ça vient d'en haut, plus c'est facile de faire bouger les lignes en bas.
Mais peut-être encore faut-il, en tout cas c'est aussi une partie de mon message, qu'en bas, ça s'exprime.
C'est clair.
Quand vous êtes recruteur, vous avez la capacité à dire, regardez, j'ai peut-être, voilà. Et une fois que la personne est intégrée et que tout le monde dit super, génial, bah peut-être vous pouvez lever la main pour dire, hé, vous vous rappelez l'annonce qu'on avait passée ? Vous voulez que je vous montre le CV de la personne ? Absolument pas ce qu'on cherchait. Et pourtant, c'est la bonne personne dans nos équipes. Aujourd'hui, vous en êtes convaincu puisque vous l'avez intégré. Donc il faut que le bas s'exprime. Petit élément de conclusion. Moi, j'en ai deux à partager avec vous. Le mal recrutement, ça coûte très, très cher. Parce que peut-être vous vous interrogez en disant ce qu'on vous a partagé avec vous. OK, il faut adapter, mais la productivité, etc. Comment est-ce qu'on fait pour avancer ? Mal recruter coûte beaucoup plus cher qu'adapter ses processus de recrutement. Faites le test, hein. C'est facile, je pense que vous avez tous en tête des échecs d'intégration. Imaginez les conséquences que ça a pu avoir. Donc, mal recruter coûte beaucoup plus cher que de recruter différemment. Et puis, le deuxième élément de recrutement, c'est de la projection, mais quoique c'est déjà maintenant. Les générations qui intègrent le marché du travail aujourd'hui, il est dit, les différentes études disent que ces personnes vont occuper 10 à 12 jobs différents au cours de leur parcours professionnel. Il n'y a pas encore aujourd'hui d'études qui permettent de préparer avec un diplôme à 10 à 12 jobs différents. Et que ce soit 8, 6, 15, 25 ou 39, c'est pareil. Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il va falloir que nos entreprises, on adapte nos processus de recrutement pour capter ces talents qui demain auront suivi un parcours de formation, un parcours d'expérience professionnelle qui sera plein de différences, et il va falloir savoir les lire, savoir les détecter, savoir les accompagner parfois pour leur faire grimper la marche qui va bien pour qu'elles occupent le poste chez nous, mais la standardisation n'a pas d'avenir. Voilà. Petit mot de conclusion, mais la parole est à vous maintenant.
Il nous reste 2-3 minutes.
Qui osera briser la règle, le standard qui veut que la première question est la plus difficile. Merci. Ouais.
Donc du coup, ça fonctionne ?
C'est bon.
Ok. Donc vous parliez au niveau du processus, donc qui est très conservateur, et vous parliez de diversification. Alors quel type de diversification vous parlez ? Donc on connaît le recrutement standard, très bien, mais c'est vrai que pour les personnes en situation de handicap, faut être plus créatif, on va dire, parce que c'est plus compliqué. Alors, quelles sont les autres solutions pour pouvoir justement aller chercher ces candidats ?
Alors, c'est vrai que je vous ai cité le job dating. Mmh. C'est une expérience qu'on connaît beaucoup sur le côté sentimental, mais dans la partie recrutement, ça marche très, très bien. Ouais. J'ai parlé de la méthode de recrutement par simulation.
D'accord. La recherche d'aptitude. Survalorisation des savoir-être par rapport au savoir-faire. Ouais. Donc intégration de la notion de formation dans le parcours d'intégration de la personne. Ouais. L'exemple que je donnais sur l'anglais, une alternance peut déboucher sur une embauche. Mm-hmm. Où là, peut-être, la personne aura bien besoin de l'anglais dessus. On a 2 ans où on peut effectivement lui fixer des objectifs parce qu'on recrute bien sur compétences. Mm-hmm. Si d'ici 2 ans, et avec l'accompagnement qu'on met en place, elle n'a pas le niveau d'anglais suffisant, Elle a perdu. Elle a joué, elle a perdu. Mais on lui a donné la chance et on a mis en place quelque chose. Un parcours d'intégration qui intègre une formation en anglais, pour une entreprise, ce n'est pas forcément exorbitant en coût.
Recrutement sans CV, CV vidéo, là, il y a plein de formes Assessment Center, il y a plein de formes, il y a plein d'outils différents aujourd'hui qui existent, qui commencent à se déployer dans nos entreprises. Souvent, pour les cadres ou le top management de nos entreprises, on met en place ce type de processus de sélection, mais en fait, c'est peut-être à tout niveau, et ce qui est le plus important, c'est d'avoir une diversification des méthodes, des process de recrutement. C'est cette diversification qui permet de toucher un maximum de viviers, et donc de se donner la capacité, la chance, l'opportunité d'intégrer tous les talents au sein de nos organisations.
Et j'aurais envie de rajouter quelque chose, c'est sur des profils atypiques, de mettre des recruteurs confirmés, formés à la thématique du handicap, mais confirmés. Et de ne pas le laisser dans les mains de personnes en formation, en alternance, qui en plus jouent la possibilité d'avoir un emploi derrière et qui sont tétanisés de peur pendant leurs actions de recrutement. Madame, je vous en prie.
Par rapport à l'annonce, rédiger une annonce assez ouverte pour que les personnes en situation de handicap se sentent motivées pour y répondre ?
Je rends dire la première des choses, déjà, avant de parler de motivation des personnes handicapées, c'est que là, à mon avis, personne ne comprend le contenu de l'annonce et le travail qu'il y a à faire. Ce serait d'inclure beaucoup plus une relation de proximité entre les RH et le management et de leur faire définir, non pas un profil standard, mais à la tâche, ce que la personne a besoin de faire. Là, c'est de la gestion de notes de frais. Quand on a travaillé avec eux, en fait, on a repris la fiche de poste et on a retravaillé. Et en fait, ce que c'était de recopier des tickets sur des fichiers Excel avec des transferts, etc. Aller sur de l'extra concret, c'est-à-dire à un moment, définir le poste réellement. Qui d'entre vous n'a jamais un jour cherché un emploi, postulé sur un poste et découvert lors de l'entretien que ce n'était pas ce que vous pensiez du poste ? C'est arrivé à tout le monde. C'est comme dans les divorces, hein, c'est jamais 100% tort de l'un ou de l'autre, hein, c'est un problème de com, émetteur-récepteur. Si déjà l'émetteur il a un message qui n'est pas clair, il ne faut pas espérer qu'il soit compris. Donc si on veut recruter en surpondérant des savoir-être et des savoir-faire, il faut qu'il soit le plus concret possible et qu'on puisse essayer de rechercher des savoir-faire transférables. Typiquement là, dans les candidats qui avaient pu être transmis, dans les personnes handicapées, il y avait des gens qui avaient été bibliothécaires. On ne connaît pas du tout la paye, c'est une reconversion professionnelle. Déjà, il ne faut plus s'interdire de reprendre des gens en formation pro à 35, 40 ans, voire 45 ans. Ça, c'est un autre problème. Mais derrière, bibliothécaire, ça permet de lister un certain nombre de savoir-être et certains savoir-faire. Le travail sur l'informatique, il est maîtrisé. On change de logiciel, c'est tout. La rigueur, elle est forcément là. C'est de ça qu'on a besoin. Donc, en fait, une fois qu'on met ça, on a des concordances. Et là, sans la rencontre dont vous parliez, c'est juste pas envisageable. Quoi.
En tout cas, rien dans l'annonce ne doit laisser transparaître l'ouverture à
pas spécifiquement, tous les postes sont ouverts à tout le monde,
voilà. Moyennant mais le oui, fait mais il n'y a pas une espèce de discrimination positive, c'est pas une pratique que vous encouragez pour
c'est une pratique que j'encourage pour tous les recrutements. En clair, quand je travaille avec nos clients, ils nous disent, mais en fait, ça, on va l'appliquer à peu près à tous nos recrutements, on va reprendre nos annonces, et c'est terminé la touche F5 pour un poste de commercial, c'est tout terminé la touche F4 pour un poste de comptable, on va définir précisément ce qu'on attend de tel comptable dans tel service, de tel commercial sur telle zone. C'est quelque chose que je préconise, mais pas juste pour les personnes handicapées. Et c'est en ça que, véritablement, je pense que la politique handicap est un laboratoire d'innovation sociale sur l'ensemble des thématiques. Si vous trouvez des solutions organisationnelles pour répondre aux besoins de quelqu'un qui a besoin de temps pour des soins, vous résolvez un problème de disponibilité. Le même que peut rencontrer un parent isolé, le même que peut rencontrer une personne qui a
besoin. Il y a le problème du secret médical. La personne n'est pas obligée d'expliquer à son employeur.
Et c'est bien pour ça qu'on ne parle pas de la nature du handicap, mais que des conséquences. Et là, on a le droit de poser toutes les questions, parce que même la nature, ce serait catastrophique. Hein, s'ouvrir la porte à plein de choses, on n'est pas médecin. Par contre, parler des conséquences, ça signifie que dès le premier entretien, même le fait de caler un entretien téléphonique, la personne qui fait ça, si elle sait qu'elle est en face une candidature de personne handicapée, doit créer un climat de confiance. Elle fixe l'heure et la date du rendez-vous, et ensuite elle va sur le sujet. Je sais que vous êtes une personne reconnue travailleur handicapé, on l'a vu sur votre candidature. Est-ce que pour l'entretien, vous avez besoin de certains aménagements ? Oui, non. Et on reposera cette question au fur et à mesure, et on parlera des conséquences du handicap sur l'activité. On ne demandera pas de quoi vous avez besoin. Parce que l'enjeu principal d'un candidat, c'est quoi ? C'est d'avoir le poste. Si on lui dit de quoi il a besoin, il va minimiser son besoin pour ne pas être différent des autres. Donc il y a toute une question... C'est une question de formalisation, de créer le climat de confiance. Des questions peuvent être tournées autrement. Dans un monde idéal, sur votre ancien poste, vous auriez eu besoin de quoi pour être à l'aise ? On n'est pas en train de lui dire de quoi il a besoin là. Il ne demande rien. Il dit, dans un monde idéal, j'aurais eu besoin de ça. Vous avez de l'information. Il faut du temps, il faut répéter, et il faut aussi être prêt à quelque chose. Un entretien de recrutement, il ne fera jamais sortir la réalité complètement. La personne finira par se lâcher à un moment où elle se sentira le plus en sécurité. C'est-à-dire après la fin de la période d'essai. Donc il faut s'attendre à ça. Et il faut préparer le manager à dire, j'ai pas été trahi. La confiance, il faut la construire. Enfin voilà, en répondant très rapidement, parce qu'on va se faire... Là, il vient gentiment dire, après il tire. Mais... En tout cas, je vous remercie de votre participation. Si vous avez une question, je vous en prie. Ça peut être une piste. Ça peut être une piste. Après, il ne faut pas recruter la personne parce qu'elle est handicapée. C'est juste une piste de sourcing. Rien n'est mauvais dans le fait, quoi. J'allais dire même le réseau relationnel des personnes handicapées est valable. Merci bien.